Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de Carly Fiorina qui devient la coulissière de Ted Cruz, de l'islam qui fait des vagues en Europe, des écoles juives qui font des vagues au Québec, du multiculturalisme, de la légalisation du mariage gay en Colombie et des bonnes nouvelles du jour en rafale. Débutons par cet article du Devoir intitulé « Ted Cruz choisit Carly Fiorina comme coulissière ». Et oui, mesdames et messieurs, c'est pas un secret de polichinelle. Ted Cruz lutte contre Donald Trump pour devenir le chef du Parti républicain en vue des présidentielles de 2016. Oui, mesdames et messieurs, mais ce qui arrive, c'est que Carla Fiorina se joint à lui pour être éventuellement, si le peuple le désire, la vice-présidente des États-Unis. Carla Fiorina est une chrétienne évangélique connue, une bonne amie de M. Bill Hybels, qui est pasteur de l'église Willow Creek aux États-Unis, une église qu'on appelle une méga church. C'est son principal conseiller. Cette femme, Carly Fiorina, vient du monde des affaires. Elle s'est illustrée dans les années 90 et au début des années 2000 et s'est affichée clairement comme étant pro-vie. Donc, je crois que c'est une belle combinaison. Cette combinaison Ted Cruz-Carly Fiorina. Alors, c'est sûr que les journaux vont l'avoir à l'œil, puisqu'elle est une femme, d'une part, qu'elle va se démarquer par ses positions sociales et également le fait qu'elle s'est jointe à Ted Cruz. Maintenant, il n'y a pas seulement qu'aux États-Unis où est-ce qu'il y a des vagues qui sont créées, on en voit en France et en Allemagne. Il y a deux articles du Figaro qui ont attiré mon attention. Le premier s'intitule ainsi « Islam, une image dégradée en France et en Allemagne » et l'autre, c'est « Anwar Kibach, les musulmans de France veulent un droit à l'indifférence ». Ce qui arrive, mesdames et messieurs, on peut comprendre qu'en Europe, et spécialement en France, et particulièrement à cause des attentats qui ont eu lieu en novembre 2015 et les attentats qui ont eu lieu tout près de la France, en Belgique, eh bien, c'est clair que les Français et les Européens, dans leur ensemble, sont méfiants, pour ne pas dire qu'ils sont en colère contre les musulmans. À tort ou à raison, mesdames et messieurs? Moi, je dirais à tort. Pourquoi à tort? Parce qu'il ne faut pas mêler le terrorisme à l'islam. Vous allez dire, oui, mais il y a plein d'attentats terroristes qui sont faits au nom d'Allah. Il y a plein de gens qui se disent islamiques, musulmans, et qui commettent des actes terroristes. Oui, mais écoutez, mesdames et messieurs, il y a des tueries sauvages qui se font aux États-Unis en plus grand nombre, et ils sont faits par des gens d'origine ou de source judéo-chrétienne. Rappelez-vous, il y a quelques années, il n'y a même pas une décennie de cela, la tuerie qu'il y a eu dans les pays scandinaves, où est-ce que des enfants ont été tués dans un camp de vacances, c'était pas par un islamique. Maintenant, qu'on soit islamique, qu'on soit chrétien, qu'on soit de foi athéiste, si on est un tueur, si on est un terroriste, on mérite des condamnations. On mérite qu'il y ait des conséquences. Maintenant, on ne doit pas cibler l'islam, on doit cibler le terrorisme. C'est contre le terrorisme qu'on doit s'attaquer. Et si le terrorisme trouve son nid dans une mosquée, eh bien, ce sont les terroristes qui doivent être punis. Et si les terroristes se trouvent dans une église, dans une synagogue, dans un bâtiment quelconque, eh bien, ce sont les terroristes qui doivent être punis. Mesdames et messieurs, il faut faire attention. Certains d'entre vous, vous devez vous dire, mais pourquoi, Éric, tu prends la défense de l'islam? Tu es un chrétien évangélique qui croit en Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. Oui, je crois en Jésus comme étant le seul chemin, la vérité et la vie. Je crois que la Bible est le seul livre inspiré de Dieu. Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Si on se met à attaquer l'islam, puis on se met justement à dire au gouvernement encadrer cette religion-là pour qu'elle ne puisse plus être en mesure d'exercer son rayonnement, mais ça va vouloir dire que toutes les autres religions, à l'exception de l'athéisme, vont être affectées. C'est pourquoi je préfère une liberté pour tous, dans la mesure que la sécurité publique est protégée, évidemment, on se comprend bien, là. La liberté pour tous que la restriction pour tous. Alors, c'est un choix, mesdames et messieurs, qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette propagande qui vise continuellement à intégrer l'islam avec le terrorisme. Oui, dans bien des cas, il peut y avoir des liens. Mais ces liens-là, mesdames et messieurs, doivent être reliés, lorsque c'est le cas, au système judiciaire. Et le système judiciaire ne sera pas là, ne devrait pas être là pour condamner l'apport religieux, mais pour condamner le terrorisme. Et donc, si quelqu'un est terroriste, qu'il soit athée, qu'il soit islamique, qu'il soit judéo-chrétien, qu'il soit tout autre, eh bien, ce sont ses actions terroristes qui doivent être jugées. Et ça, c'est clair. Sinon, les chrétiens vont écoper et on va être muselés. Et ça va faire du tort à l'Évangile, croyez-moi. Il n'y a pas seulement que les musulmans qui suscitent des vagues, mesdames et messieurs. Plus près, chez nous, au Québec, les écoles non conformes juives créer des vagues. Eh oui, il y a un article du journal Le Devoir qui est intitulé « Des écoles non conformes obtiennent encore le feu vert ». Voici ce que nous dit Le Devoir. Le ministère de l'Éducation a discrètement renouvelé le financement d'une école dérogeant aux exigences minimales du régime pédagogique en dépit d'un nouvel avis défavorable de la commission consultative de l'enseignement privé. Écoutez, mesdames et messieurs, moi, je crois que les écoles confessionnelles devraient exister. Là où le nombre le justifie, elles devraient être subventionnées à 100%, puisque ça ne coûte pas plus cher à l'État de subventionner une école confessionnelle que de subventionner une école publique traditionnelle. Maintenant, ce qui arrive par contre, moi, j'ai toujours cru et je me suis toujours levé pour favoriser, par exemple, les écoles chrétiennes qui sont mises sur pied avec un permis du ministère de l'Éducation parce que je crois que si on éduque nos enfants, ils doivent être éduqués pour fonctionner dans cette société, mais fonctionner avec des valeurs et avec un enracinement, qui est conforme à la vision des parents. Mais si une école, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit islamique, qu'elle soit athéiste, ne répond pas au régime pédagogique, aux attentes pédagogiques du ministère de l'Éducation, eh bien moi je dis, oui, le ministère de l'Éducation doit intervenir. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ça fait plusieurs années qu'il y a des écoles juives qui vont dévier des attentes du ministère de l'Éducation. Et on leur donne des permis, et même dans certains cas, on leur donne du financement. Moi, j'ai été directeur d'école, d'une école confessionnelle. Et je peux vous dire, à un moment donné, lorsqu'un inspecteur qui est venu, puis qui a vu que certains de nos locaux n'étaient pas tout à fait conformes aux exigences, ils nous ont menacés sur le champ de nous retirer nos subventions. Écoutez, on a pris des décisions, puis on s'est conformé à leur attente. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire ça par jalousie? Non! Parce que j'ai été le premier à me lever et à dire à la communauté scolaire, nous allons nous conformer aux attentes du ministère. Parce que c'est pour le bien des enfants. Ce n'est pas contre notre religion, c'est pour le bien des enfants. Et leurs attentes sont envers toutes les communautés scolaires. Mais lorsque je lis ça, il y a des questions qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui fait que les écoles juives sont favorisées au détriment d'une école, par exemple, d'une école chrétienne, comme celle que j'ai dirigée? Est-ce que c'est parce que les communautés juives investissent de l'argent, soutiennent des partis politiques? Je n'ai pas la réponse à ça, mesdames et messieurs. La question se pose, par exemple. Est-ce que je suis contre que les Juifs mettent sur pied des écoles? Pas du tout. Pas du tout. Mais moi, ce que ça me montre, il y a une chose qui est claire pour moi. C'est que la communauté juive, qu'elle finance les partis politiques ou non, comme je vous l'ai dit, je ne le sais pas. C'est une question qui se pose. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que la communauté juive, elle revendique ses droits, elle frappe aux portes de leurs députés, elle frappe aux portes du gouvernement, elle se bat pour que les éléments de sa culture puissent être présents en milieu scolaire. Et moi, j'admire ça. Et s'il y avait plus de communautés chrétiennes qui avaient la détermination de ces Juifs-là, eh bien, je peux vous dire une chose, il y aurait un zèle beaucoup plus grand puis un rayonnement beaucoup plus grand des chrétiens au Québec. Maintenant, quand j'ai posé la question, est-ce que c'est parce que les communautés juives supportent financièrement des partis politiques? Premièrement, ce n'est pas illégal de le faire. Ce n'est pas illégal. Tout citoyen a le droit de donner une contribution à un parti politique. Il n'y a pas de problème. Quand je disais ça, ce n'était pas pour dénigrer l'intégrité de cette communauté-là. C'est simplement dire, si c'est la façon de faire, dans la légalité, je parle, si c'est la façon de faire, pourquoi nous, les chrétiens, on ne le ferait pas? Maintenant, si c'est pour nous faire avancer, c'est une question que je vous pose, et c'est à ça que ça sert, le tour d'horizon. C'est pour discuter à haute voix, réfléchir. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité, c'est ça qu'il faut faire. Je suis en train de soulever la question. Je suis en train de soulever le débat. Et c'est important qu'on puisse réfléchir pour avancer. Parce que savez-vous ce qui freine toute organisation, incluant l'Église? Il y a une chose qui freine toute organisation, incluant l'Église, c'est le statu quo. Eh oui, mesdames et messieurs, le statu quo nous empêche d'avancer. Ce que nous dit le ministre Proulx, c'est qu'il a agi dans l'intérêt des élèves. Dans un autre article du Devoir, il nous dit ceci. S'il n'y avait pas de permis dans ces écoles-là, le ministère de l'Éducation pourrait perdre complètement la trace de ce qui se fait à l'intérieur de ces établissements d'enseignement, a-t-il déclaré lors de la période des questions. C'est l'intérêt des enfants qui prime, a-t-il ajouté. Écoutez, moi je dis que ça serait bien simple. On empêche le transfert de fonds du ministère de l'Éducation à l'école, puis on dit, bien, vous allez avoir vos fonds quand le tout sera corrigé. Croyez-moi, ils vont bouger. Pourquoi agissent-ils pas de cette façon-là? Et là, il faut se poser des questions. Mais quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, c'est important ce qui se passe avec la communauté juive. Parce qu'on doit se préoccuper, justement, de la part de chaque groupe ethnique, chaque communauté culturelle dans notre société. C'est important. Ils ont un rôle à jouer. Et de la façon qu'on va réagir en tant que société envers la communauté juive, pourquoi la communauté juive? Parce qu'on en parle dans les médias. Eh bien, ce sont les mêmes critères qui vont être utilisés pour les communautés chrétiennes. Alors, c'est pourquoi Mathieu Bock-Côté critique toute la question du multiculturalisme, spécialement dans cet article intitulé « Le piège solidaire ». Je fais juste le citer au passage parce que je veux le développer davantage la semaine prochaine. Moi, ce que je propose, c'est plutôt un patriotisme communautarien. J'en reparle la semaine prochaine. Et j'aimerais terminer, avant de passer aux bonnes nouvelles du jour en rafale, eh bien, c'est fait. La Cour suprême a officialisé le mariage gay en Colombie. On sait que dans ce pays, les couples homosexuels avaient le droit à l'adoption, mais maintenant, ils vont pouvoir se marier légalement. Et donc, en rafale, les bonnes nouvelles du jour, EMCO Corporation reçoit un prix national pour son programme d'aide aux employés. Montréal est le prochain arrêt pour Paralympiens recherchés le samedi 30 avril. Eh bien, Paralympiens recherchés sera dans la ville d'origine de certains des meilleurs athlètes paralympiques le samedi 30 avril au complexe sportif Claude Robillard à Montréal à la recherche de futurs participants dans le passeport. Ou plutôt dans le parasport, pardon. Lancement de la 11e édition du 24 heures science. Eh bien, le 24 heures science, mesdames et messieurs, proposera plus de 300 activités partout à travers le Québec les 6 et 7 mai prochains. Le thème de cette année, l'écologie. Cet événement est une présentation de science pour tous. Sur ce, mesdames et messieurs, puisque la fin de semaine approche à grands pas, eh bien, je vous dis à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!